J'espère que vous allez surtout nous entendre parce qu'habituellement il y a une petite sono dans cette salle et la mise en place de l'exposition a fait que la sono n'est plus là. Donc on va essayer de parler fort et peut-être essayer de parler pas trop longtemps, ce qui peut être aussi une autre façon de procéder. Alors la 21e édition, voilà, on compte à chaque fois. 25-29 septembre, ça on a à peu près l'habitude, ça bouge assez peu. Et on va vous donner, non pas l'intégralité du programme, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire, 90%. Voilà, il manque quelques réglages, quelques confirmations, mais on a quand même une belle partie du programme. Inutile de prendre des notes en ce qui concerne les auteurs et le titre des livres, etc., parce qu'on vous facilite le travail, il y a une liste, ça sera plus simple. Et concernant le reste, c'est-à-dire les soirées, les lectures musicales, ça c'est pas écrit, mais je vais vous le raconter un petit peu vite, peut-être, on peut commencer là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer le soir à Manos ? On a voulu vous présenter des soirées très diverses, surprenantes. Faut se creuser la tête pour surprendre au bout de 21 ans. On a voulu amener à Manosque des comédiens lecteurs formidables, donc des gens qui ont une belle expérience de théâtre. Je vous dirai les noms. Parmi vous, si vous allez régulièrement au théâtre, vous les connaîtrez, peut-être d'autres ne les connaîtront pas, mais croyez-moi, ce sont des lecteurs incroyables. On commence, je le fais par ordre d'arrivée, en fait, le mercredi, la première lecture va donner lieu à quelques blagues, produits dérivés, etc., parce que c'est Dracula. Dracula, qui est un roman épistolaire. Voilà, donc on est en plein dans les idées de lettres. Dracula qui vient de rentrer en Pléiade, quand même, s'il vous plaît. C'est une façon de reconnaître cette littérature que tout le monde connaît, mais que peu de gens ont lue. Et cette lecture musicale sera portée par Jacques Bonafé, accompagné par Théo Acola. C'est un couple qu'on avait déjà formé il y a quelques années pour les lectures des lettres de Jacques Kerouac, pour ceux qui étaient dans la salle. Le lendemain, un texte absolument bouleversant et très politique, parce qu'il s'agit d'un intellectuel, journaliste, écrivain turc, Ahmet Altan, qui est emprisonné, jusqu'il y a peu, emprisonné à perpétuité. Avant-hier, il y a eu une sorte de cour de cassation qui a levé la perpétuité, mais il va y avoir d'autres jugements, et il n'est pas évident du tout qu'ils sortent avant de longues années. Ça s'appelle « Je ne reverrai plus le monde ». Et ce sont en quelque sorte des lettres de prison, où il raconte l'irruption de la police chez lui, son arrestation, etc. etc. C'est Nicolas Bouchaud qui lira ces lettres-là. Enfin, c'est un texte bouleversant, inutile de le répéter trop de fois, vous l'entendrez vous-même. À la suite de ça, je vais mélanger avec la musique. En deuxième partie de soirée, il y aura une auteure que vous avez appris à connaître, puisqu'elle est en résidence en ce moment, Blandine Rinkel, accompagnée d'un groupe que certains ont vu, Catastrophe, c'est son groupe. C'est un groupe à géométrie variable, ils sont venus jouer ici il y a quelques temps. Ils reviendront là dans un autre lieu du festival et en collectif plus nombreux. Vendredi, une correspondance classique au sens de un peu lointaine, mais pas classique au sens de contenu. C'est la correspondance entre Georges Sand et Gustave Flaubert. On s'est peu autorisé de retour vers le patrimoine. Là, on avait envie d'explorer un peu ça. C'est issu d'un recueil qui s'appelle « Tu aimes trop la littérature, elle te tuera ». C'est dire l'engagement des deux. Et cette correspondance à deux voix sera portée par Julie Depardieu, d'une part, et Michel Faux, d'autre part. Ils ont partagé la scène il y a assez peu de temps.
Ça faisait longtemps qu'on voulait la scène.
Michel Faux, c'est un type assez éblouissant, hein, donc genre bête de scène. Il se passe quelque chose dès qu'il met le pied sur un plateau. Vous allez voir. Toujours le vendredi, une deuxième partie de soirée, avec un auteur que vous connaissez, parce qu'il est venu souvent au festival. Il est extrêmement drôle, pas que, mais il sera là dans sa veine comique, c'est Philippe Jaénada. Et il a inventé une lecture musicale avec Émilie Loiseau. Donc lui, il dit, il raconte, il lit, elle, elle chante, et il y a des rencontres, des échos, des télescopages. Samedi, la grande lecture s'intitule « Un sacré gueuleton, manger, boire et lire ». Ce sont des textes de Jim Harrison, un parcours dans l'œuvre de Jim Harrison. Pour Jim Harrison, il nous fallait un ogre qui est déjà venu aussi, il s'appelle Jean-Quentin Chatelain, qui est un des comédiens lecteurs les plus éblouissants. Et puis, ce moment sera précédé et suivi de deux séquences musicales, c'est très distinct, hein, mais avant, il y aura quelqu'un que vous connaissez parce qu'il a réalisé un film qui a connu un grand succès, un film qui s'appelle Demain, c'est Cyril Dion. Un film, un livre, de la poésie. Et il a monté justement une lecture musicale de ses textes poétiques engagés. Donc on est dans l'écriture, mais on est aussi dans tout le combat qu'il mène sur la prise de conscience écologique. Donc ça, ce sera à 19h, voilà, dans la grande salle, et 21h, traditionnellement, la lecture que j'ai évoquée, Jim Harrison. Et puis en deuxième partie de soirée, un chanteur pop-rock, on va dire, pour le classer quelque part. Il s'appelle Lescope, et il a mis en musique Rimbaud, de façon moins classique que ce qui a pu être fait jusqu'à présent. Pour terminer le dimanche, on a voulu déplacer un peu la nature des exercices habituels. C'est souvent ce qu'on fait le dimanche. Et on a décidé de proposer quelque chose qui a été vu, ce ne sera pas la même, ce sera pas le même épisode, mais on l'a vu un peu l'année dernière, les grands entretiens. Comme on n'a pas pu accueillir suffisamment de monde au conservatoire, on s'est dit on va faire une grande représentation des grands entretiens. Donc là, c'est à travers la voix de trois comédiens. Un qui est une sorte d'intervieweur à la Bernard Pivot, et puis les deux autres sont une écrivaine, un écrivain, revivre un grand entretien avec un grand auteur du 20e. On n'a pas choisi à 100% quels seraient ces auteurs, mais il est assez probable que ça puisse être Françoise Sagan et Romain Gary. Donc on aura l'étrange sentiment d'écouter l'une et l'autre au théâtre Jean Le Bleu. Voilà, c'est comme ça qu'on voulait terminer par un petit décalage.
Romain Gary qui vient de rentrer dans la Pléiade.
Oui, alors voilà, on suit un peu la Pléiade. On aurait pu la devancer, mais il se trouve que là, cette année, on la suit. Évidemment, il y a les siestes, hein, en parlant de musique, des siestes tous les jours, avec une belle équipe que vous connaissez, pour les amateurs, Bastien Lallemand, Maëva Lebert. Alors, cette année, J.P. Nataf, cette année, Alvin de la Simone, et puis nos deux surprises, peut-être. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer dans le festival d'autres? Il y aura un documentaire?
Oui, un documentaire sur la correspondance de Sigmund Freud à ses enfants, et particulièrement à sa fille Martha, et que nous aurons en exclusivité, puisqu'il ne sera diffusé sur Arte qu'en 2020. Donc ce sera vraiment une première, et le réalisateur sera présent, qui s'appelle David Teboul.
Dans les objets étranges, je pourrais en citer pas mal, mais je mentionne juste celui que mène une écrivaine qui s'appelle Irma Pelletan. Elle a un projet qui s'appelle Les Lettres de Clipperton. Alors Clipperton, c'est une île quelque part au fin fond du Pacifique. C'est le prototype de l'île corallienne, c'est une sorte d'anneau paradisiaque qui est une possession française. Et comme la France a une passion administrative, dès lors qu'elle possède une terre, elle lui attribue un code postal. Peu importe qu'il y ait des habitants ou pas. Et donc Irma Pelletan, constatant que cette possession financière, cette possession française, de l'autre bout du monde possédait un code postal, elle s'est dit, je vais écrire à Clipperton et on va voir ce qui se passe. Donc elle a écrit 134 lettres à tout résident de l'îlot Clipperton avec le code postal en bonne et due forme, et la poste a pris en charge ses lettres, et je ne sais pas ce qu'elle en a fait, de telle façon elle les a traitées, mais à peu près un an après, elle a reçu au compte-gouttes en retour les lettres qui n'ont pu être distribuées. Donc elle en a récupéré 132 sur 134 qu'elle n'a pas encore décachetées, mais elle se propose de les décacheter à Manosque, de les lire, et puis ça deviendra un livre voilà. Bon, on vous racontera plus en détail prochainement, mais je trouve que ce projet dans son énoncé est très beau et très poétique. Donc aux correspondances, il avait quand même naturellement sa place. Alors les écrivains que nous allons recevoir, il y a une liste pas tout à fait complète, mais pas loin. Si je ne me suis pas trompé, aujourd'hui il y a 50 écrivains qui sont mentionnés dans ce document. Je vous promets qu'on n'a pas fait de calcul nom par nom, mais je viens de voir qu'il y avait 25 femmes. On peut donc en déduire qu'il y a 25 hommes. Et donc nous serions dans une parité parfaite. Sans appliquer de politique de quotas. Enfin voilà, les choses se sont bien ordonnées, mais c'est plutôt plaisant de le constater de cette façon-là. Et puis dans les statistiques, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse à chaque fois, c'est inviter des gens qui ne sont encore jamais venus aux correspondances. Ça n'interdit pas des fidélités, vous allez en trouver, mais c'est important parce que on pourrait se mettre un peu à ronronner et avoir l'équipe A les années paires et l'équipe B les années impaires. Alors là, le contrat est rempli puisque j'ai compté là aussi, on a un peu plus de la moitié des écrivains qui ne sont jamais venus à Manosque. Et ça, je trouve ça très réjouissant. Alors il y a évidemment des auteurs de premiers romans, mais pas que. Ça ouvre le spectre et ça montre que cette contrée est très ample, très déliée. Alors on a classé ça en deux catégories, ceux qui sont déjà publiés, c'est-à-dire des livres que l'on a lus au cours de l'hiver, au cours du printemps, donc ça c'est facile de se les procurer. Et c'était donc des livres qui nous ont particulièrement plu, avec des fidélités. Bertrand Belin, c'est le premier de la liste, je crois. On le connaît, il est venu beaucoup ici, plutôt comme chanteur. Là, il vient vraiment comme écrivain, c'est son troisième livre chez POL, où l'on découvrira, pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, que c'est un très grand styliste, nourri de littérature, et à travers un récit un peu métaphorique. Les grands carnivores, on peut considérer que ce sont les hommes eux-mêmes. Il y a un personnage très cynique en quête de pouvoir sans cesse, son frère qui est un peintre. Ils s'affrontent dans une ville qu'on a du mal à situer, je ne vous raconte pas l'histoire, c'est l'écriture et le style qui est la force motrice de ce livre, que je vous invite à découvrir néanmoins. Charles Berberian, on est ouvert à toutes les littératures, le roman graphique. Charles Berberian qui a dessiné pour la deuxième année l'affiche du festival et que l'on invite, pour qu'il vérifie s'il est content de son affiche, et puis pour qu'il nous raconte, lise, fasse découvrir ses derniers travaux. À la fois la republication de quelque chose qui s'appelle Playlist, où il dit tout son amour de la musique et de la chanson, et puis un nouvel album qui vient de sortir à l'association. Donc là, il y aura une rencontre-projection dans la petite salle du théâtre Jean Lebleu. Philippe Besson revient parce qu'il poursuit son entreprise autobiographique. C'est non pas la suite d'Arrête avec tes mensonges, mais un autre épisode de sa vie dans cette même veine. Il va retrouver complètement par hasard, 20 ans après, un homme dont il était amoureux. Alors voilà, ils vont faire un peu le bilan de leur parcours de vie. Clarence Boulet, alors là, c'est les médiathèques qui pourraient nous en parler le mieux. On l'invite et on est très content de l'inviter, mais je sais qu'elle a été plébiscitée dans le cadre du prix des médiathèques.
Oui.
Je ne t'avais pas prévenu que tu aurais à prendre la parole, mais tu n'es pas du tout obligé. Est-ce que tu veux dire un mot de Clarence Boulet ou je te prends au dépourvu et on invite les gens à lire son livre?
Oui, Clarence Boulet, elle est donc chez Sabine Desbizarres, c'est son premier roman. C'est un beau texte sur l'île Tristan de Cunha, qui est l'île du Pacifique. Et voilà, c'est un des romans à découvrir dans la sélection.
Qui sera au centre Giono le dimanche après-midi et il y aura une projection d'un film sur la même île.
On a trouvé un court-métrage sur l'île Tristan de Cunha.
Mais on la présentera à Irma Pelaton, qui s'est intéressée à Clipperton. Il y a quand même quelque chose à tresser. un inconnu, Arnaud Catherine, qui arrive avec un livre que je trouve très réussi, un titre absolument magnifique, Chantant des regards que vous croyez muets. Ce sont des successions de vignettes, il voit des gens, il imagine leur vie et il nous dévoile un peu de la sienne. C'est très subtil comme à l'accoutumée, c'est très beau, c'est très sensible. Il en a fait une lecture musicale accompagnée de Mathieu Bayot, que certains ont vu au théâtre Jean Le Bleu, c'était quand, il y a 2 ans? Non, je ne sais plus, peu importe.
C'était il y a 2 ans, avec, c'était pour Laura Kachich.
Oui, Laura Kachich.
C'était quel jour? Non, parce qu'elle a une mémoire infaillible.
C'était l'ouverture. Okay.
Ensuite, Éric Chevillard. Alors lui, c'est la première fois. C'est la première fois et on est très heureux. On est très heureux parce qu'il est très farouche, non pas qu'il soit méchant, il est très gentil, mais il est très timide. Il a longtemps esquivé les moments publics, les rencontres, etc. On a réussi à l'amadouer en lui faisant croire qu'il n'aurait pas à prendre la parole, parce qu'en effet, pour une partie de sa présence, il y a un comédien qui vient lire son blog, qui s'appelle L'Autofictif, que je vous invite à aller voir, parce que c'est d'une drôlerie absolue pour moi. Enfin, vraiment, c'est un des maîtres de l'humour dans une littérature par ailleurs extrêmement exigeante. Donc il y a une sorte de marathon de lecture, enfin marathon, on se paye un peu de mots. Il y aura 2 séquences au conservatoire où Christophe Brault lira des extraits de ce blog, un texte par jour, il pourra prendre des dates aléatoires, je ne sais pas comment il va procéder. Éric Chevillard sera là et donnera un peu le mot de la fin, mais il y aura aussi une rencontre pleinement avec Éric Chevillard, donc il accepte de prendre la parole pour nous. René Frégny, il n'est peut-être pas nécessaire que je vous le présente trop longuement. Voilà. Denis Michelis. Un livre qui a été très apprécié, État d'ivresse. Alors évidemment, le titre dévoile un petit peu de quoi il s'agit. Le portrait d'une femme qui se fait dévorer par l'alcool. Alors, c'est à la fois très fort, et très fort aussi d'un point de vue littéraire, parce que la narration est faite par la femme elle-même. Donc, au fur et à mesure du livre, on va finir par se rendre compte qu'on ne peut pas du tout faire confiance à la narratrice, parce qu'elle est en effet en état d'ivresse. Donc, elle nous emmène aussi à des endroits qui relèvent du mensonge, ou de la manipulation. Donc, c'est un livre très finement construit. Et puis Jean-Baptiste Maudet, c'est le prix Orange du livre 2019, et qui nous propose une sorte de road trip très cinématographique du côté du Mexique, avec un type qui est moitié matador, moitié cow-boy, avec des histoires de dettes de jeu, de partir à la recherche d'une fille qui a disparu. Enfin, il y a tous les ingrédients pour faire qu'on ne lâche pas ce texte haletant. Et on a décidé d'ailleurs de le faire se correspondre avec une sorte de road trip immobile.
Immobile, puisque ça se passe dans une station-service.
Voilà, ça se passe dans une station-service. Là, pour le coup, je bascule sur la rentrée littéraire. Alexandre Labruf, chronique d'une station-service. C'est un type qui s'ennuie un peu dans sa station et qui, lui, passe son temps à inventer des petites histoires.
Et à regarder des films.
Et à regarder des films.
Donc, il y a un point de rencontre avec Baudet, qui est très, très influencé aussi par le cinéma dans son road trip au Mexique.
Voilà, donc cette fameuse rentrée littéraire, on a une quarantaine d'auteurs invités. Comme chaque année, il y a des thèmes récurrents, hein, les histoires familiales, l'histoire, la grande histoire, etc. Mais il y a, je trouve cette année, en tout cas parmi ceux qu'on a retenus, des dominantes qui sont frappantes. On parle beaucoup de nature, mais nature un peu épuisée. Vous verrez qu'on va nous emmener sur la banquise, mais la banquise qui commence à prendre un peu l'eau, si j'ose dire. On nous parle évidemment beaucoup de migration et d'exil, sur toutes sortes de tonalités d'ailleurs, sur des fictions qui sont presque des récits documentaires, sur aussi une façon très libre et parfois drôle d'en parler. On nous parle de MeToo, de viol, de domination masculine, c'est pas très surprenant dans l'époque que ça vienne. On nous parle de questions politiques contemporaines. Voilà, c'est normal que le roman, qui est quand même une espèce de sismographe des sensibilités contemporaines, s'en fasse le reflet et l'écho. Alors après, on va aller quand même relativement vite dans cette liste, parce que les livres, c'est pas seulement l'histoire, c'est pas seulement le thème, c'est aussi la façon dont c'est charpenté et tenu par l'écriture. Donc si je vous raconte trop en détail, vous n'aurez pas de vision plus précise que si vous-même vous feuilletez un peu le livre, vaut mieux vous y jeter dedans. Bon, j'ai le genre que vous connaissez par cœur, Olivier Adam, une partie de Babington. Alors, il arrive dans une veine que j'aime bien, qui est une veine assez drôle, assez burlesque, où il reprend un personnage d'écrivain qui pourrait être lui, mais qui n'est jamais totalement lui, heureusement pour lui d'ailleurs. Un personnage un peu loser, qu'il arrive toutes sortes d'ennuis, que je ne vais pas développer. Mais c'est une veine un peu à la Jean-Paul Dubois, qui a d'ailleurs été un peu son parrain en démarrage d'écriture. Voilà. Donc on est content de le retrouver dans cette tonalité-là. Ensuite, Kaouté Radimi, qui vient elle pour la première fois, et qui va nous parler d'histoire d'Algérie. Et d'Algérie, non pas contemporaine, mais enfin pas loin. Le régime des militaires, en gros, et des militaires qui vont être ridiculisés par des jeunes d'un quartier, parce que ces militaires-là arrivent à un endroit où il y avait un terrain abandonné depuis quasiment toujours, où les jeunes jouaient au foot. Et ces militaires qui ont un titre de propriété sur ce terrain-là disent « Bon ben, ça y est, fini de vous amuser, fini de jouer, c'est là que nous allons construire notre maison. » Donc il y a une résistance du quartier et des jeunes qui s'organisent et qui vont mettre ces militaires en déroute, on peut le dire. C'est une façon, à travers une petite histoire, de nous parler un peu d'un pays qui ne va pas très bien. Et Kaouté Radimi dialoguera d'ailleurs avec Brigitte Giraud. Il y a deux, trois échos. D'abord, Brigitte Giraud a elle-même écrit sur l'Algérie. C'est un pays qu'elle connaît et qui la touche. Brigitte Giraud écrit sur l'histoire aussi, qui nous renseigne sur le contemporain. Et pour autant, Brigitte Giraud a écrit un livre qui n'est pas non plus à mettre en parallèle avec celui de Kaouté Radimi. Celui de Brigitte Giraud, qui s'appelle « Le jour de courage », c'est un adolescent en classe qui fait un exposé sur les premiers autodafés nazis. Et particulièrement, il retrace le parcours d'un savant allemand, Magnus Hirschfeld, qui a travaillé sur l'égalité homme-femme et sur les droits des homosexuels au début du XXe siècle. Et très vite, le roman, et c'est la force de ce roman, va nous dire de façon subtile que le choix de cette thématique-là veut évidemment dire quelque chose de la situation personnelle de cet ado-là. Voilà. Je crois que j'ai été suffisamment explicite. Le livre dira mieux que moi. Natacha Apana, qui est une belle auteure, une histoire de famille et de prison. Alors pour le coup, je me garderai même de vous la raconter, parce que c'est dans la finesse, c'est dans l'écriture que se déploie ce livre. Et elle dialoguera avec une auteure qu'on accueille pour la première fois, on est très heureux de l'accueillir, Cécile Coulon, qui est romancière, qui est poétesse, qui a plein de talents. Et voilà, ça suffit.
Ça suffit.
Anne Brochet.
Anne Brochet, vous vous souvenez peut-être, c'était cette jeune fille qui jouait dans Tous les matins du monde, enfin, qui depuis a évidemment fait une carrière
qui n'est plus une jeune fille.
Qui a fait une belle carrière au cinéma et qui a vécu pendant une bonne quinzaine d'années aux États-Unis, et là qui revient en France et qui publie un roman. Ça y est, maintenant j'ai oublié le titre. La fille et le rouge. Et c'est l'histoire d'une passion dévorante, humiliante, dramatique. C'est une femme, professeure, qui a rendez-vous avec ses homologues dans une ville étrangère et qui, voyant cet homme arriver, se dit très très beau, mais je ne l'aurai jamais, celui-là. Et puis, curieusement, une soirée se passe, une nuit se passe, il déclare un amour torride, parce que le sexe est très présent dans cette passion. Ça fait un petit peu penser, mais pas du tout dans la même écriture, et l'histoire n'est pas la même, à Simple Passion de Annie Ernaux, dans ce que ça
appelle.
Une passion simple ou simple passion?
Une passion simple, je crois.
Enfin, vous avez compris. Et voilà, et cette femme est en France, cet homme habite de l'autre côté de l'Atlantique, donc on peut supposer que c'est aux États-Unis. Elle va tout quitter pour
aller le rejoindre. Lui va quitter femme et enfant pour vivre cette passion avec elle. Et voilà, c'est dévorant, c'est dramatique et c'est désastreux. Mais le livre est vraiment... Enfin, on est complètement, malheureusement, pris par cette passion et on se dit, heureusement, de ne pas avoir vu. Pareil. Ensuite, j'évoque sa mort.
C'est ton protégé.
Ah, c'est un auteur italien qu'on avait reçu dans le festival Italissimo il y a 2 ans, qui est à la fois journaliste et écrivain, qui a une émission de radio à Rome. Et c'est Jérôme Ferrari qui a mis en lumière cet auteur il y a quelques années avec un roman qui s'appelait Malacarne. Et là, c'est un roman assez court hein, qui s'appelle Borgo Vecchio. Borgo Vecchio étant un quartier de Palerme, et ça va être la description de ce quartier qui était un quartier éminemment pauvre, où les gens sont très très pauvres, défavorisés, où la mafia règne. On va suivre 2 enfants qui nous racontent leurs anecdotes et leur quotidien dans ce quartier. C'est à la fois un roman sombre et noir, et lumineux par l'humour et par les anecdotes racontées par ces 2 enfants. Et ce sera dans le cadre de notre format Un auteur et son traducteur, enfin en l'occurrence un auteur et sa traductrice, Lise Chapuis.
Que nous organisons avec le Collège des traducteurs d'Arles. À Jonathan Coe, un immense livre. Pour ceux qui ont lu Testament à l'anglaise, enfin, on sait à quel point il peut arriver à décrire un pays, une société, une époque. Et là, il se pose en quelque sorte la question, comment en est-on arrivé là? C'est une histoire de l'Angleterre des années 2010, où il arrive à raconter tout un pays à travers des destins individuels, ceux de ses personnages, et puis un destin collectif, une Angleterre qui s'achemine vers le Brexit. Donc voilà, c'est brillantissime, y a une ironie, c'est mordant. Enfin, pour ceux qui aiment Jonathan Coe, il y a tout ce qui fait qu'on adore. On a déjà parlé de Cécile Coulon, Bérangère Cournu, qui d'ailleurs parlera avec Hélène Gaudy, parce qu'évidemment le rapprochement était assez simple à faire. L'une et l'autre ont écrit un roman qui se passe en tout ou partie sur la banquise, au milieu des pingouins, des ours blancs. Le livre de Bérangère Cournu, de peau et d'os, est merveilleux, je trouve. Moi, j'y allais un peu à reculons en me disant 250 pages sur la banquise, on va vite s'ennuyer. Et en fait, il y a un truc complètement magique, parce que ça nous ouvre sur un imaginaire que l'on ignore complètement. Enfin, cette façon de penser qui est tellement éloignée de la nôtre, ce blanc qui porte 12 noms parce qu'il n'y a pas deux blancs qui se ressemblent, ces micro-événements qui font une vie. Est-ce qu'on va manger des baies avec de la graisse de phoque ou est-ce qu'on va manger du poisson? C'est très prosaïque et très onirique à la fois. C'est vraiment un livre merveilleux. Et donc, elles parleront banquise avec Hélène Gaudy.
Qui, elle, retrace une expédition qui a eu lieu fin du 19e en Norvège. 3 explorateurs sont partis en montgolfière pour faire une étude de la banquise. Et malheureusement, ils se sont... a échoué, se sont scratchés. Et 30 ans après, on a redécouvert des photos de cette expédition. Et à partir de ces photos, elle retrace le voyage de ces Norvégiens. Et elle a fait tout un travail sur cette expédition et sur ces photos en résidence à La Roche-sur-Yon. Et c'est à partir de là qu'elle a eu envie d'en faire un roman. Qui est d'une grande délicatesse. On a très froid aussi.
À lire en période de canicule. Louis-Philippe d'Alembert, qui dialoguera, alors pardon, c'est difficile à prononcer, mais en septembre je saurai le faire, avec Beata Umoubeyi-Mérès.
On est en pleine actualité. Louis-Philippe d'Alembert, il part d'un fait réel qui est le naufrage de migrants d'un bateau pétrolier il y a 4-5 ans au large du Danemark, enfin un pétrolier danois qui a échoué en allant vers Lampedusa. Donc ça, c'est le fait réel. Et donc ça lui permet de retracer le voyage dramatique de 4 femmes africaines d'Afrique différentes et de raconter l'exil, l'arrachement à sa famille, qu'on va y arriver, est-ce qu'on va survivre sur la survie. Et il est en dialogue avec Beata, nous allons l'appeler Beata.
Par convention, on va l'appeler Beata jusqu'à meilleure maîtrise de son nom de famille.
Elle retrace.
Elle est rwandaise. Elle est rwandaise.
Elle est rwandaise et elle va.
Elle exil vient de cet abominable génocide.
Et c'est l'histoire d'une femme rwandaise qui retourne au Rwanda. Donc c'est l'avant, la traversée et l'exil.
Et pourquoi la traversée est forcée parfois.
Et le retour.
Le livre de Beata est très joliment écrit, très poétique, alors que le thème ne s'y prête pas vraiment. C'est La protégée de Gaël Faye. Il raconte la même histoire, mais d'une façon tout à fait différente. Enfin, voilà. Vous verrez, c'est un très très beau livre. Marie Dariussec, alors là aussi, c'est l'immigrant, mais elle le traite d'une façon tout à fait différente. Rose qui part en croisière et qui va tomber sur Younes en train de faire naufrage. Voilà, ça part comme ça.
C'est plein d'humour.
Ouais. Et en parlant d'humour, Charlie Delwart. On a quelques livres drôles quand même. C'est pas souvent en littérature, mais il y en a quand même quelques-uns. Charlie Delwart, alors Data Biographie, j'adore ces livres. C'est très drôle. Charlie Delwart, c'est quelqu'un d'assez normal, comme vous et nous. Enfin, c'est pas un super-héros. Il n'a pas eu un destin exceptionnel. Il n'est pas sorti indemne d'une guerre, donc il a une vie ordinaire, si ce n'est qu'il est écrivain. Et là, il a décidé de faire son autobiographie en creusant sur ses data personnelles, quoi, sur ses informations. Donc, il a collecté toutes sortes d'informations sur le nombre d'heures où il a pu dormir, et puis des choses assez drôles, voire burlesques. En couverture du livre, on voit le nombre de mètres carrés qu'il aurait pu acheter dans différentes villes du monde, à Paris, à New York, à Athènes, avec tout l'argent qu'il a laissé à son psychanalyste. Voilà, ça c'est une des datas qu'il a sorties. L'autre, plus loin dans le livre, le nombre de fois où il s'est disputé avec ses enfants, et parmi ces fois-là, le nombre où après coup il estime qu'il a eu raison, le nombre où il estime qu'après coup il a eu tort, et puis le nombre de fois où ça reste indéterminé. Ben voilà, il y a plein d'histoires comme ça. Alors, il se raconte très bellement de cette façon-là. Les graphiques sont très jolis à voir, parce qu'il y a des graphiques graphiques, si j'ose dire. Il y a du texte, évidemment, aussi. Et puis, je trouve que ça donne envie de se lancer dans son aventure personnelle de data-biographie. Enfin, on peut peut-être faire un atelier d'écriture data-biographie. Je pense que ça pourrait donner des choses intéressantes. Voilà. Enfin, je dis ça, on n'a pas organisé, mais peut-être pour 2020. Patrick Deville, bon, évidemment, là, vous allez dire, on le connaît déjà, mais Patrick Deville, on s'est interrogé, on se dit, on l'invite à chaque fois, d'accord, mais en même temps, c'est pas gratuit. Il est en train de construire une œuvre. Là, c'est Amazonia, enfin, c'est très simple, c'est très situé géographiquement, Patrick Deville. Moi, je trouve celui-ci particulièrement réussi parce que, dans certains, c'est toujours de très haute tenue, de très haute qualité. Mais parfois, je trouve que c'est trop dense, il met trop d'informations dans trop peu de pages et trop peu de lignes. Là, je trouve que c'est plus gracieux d'une certaine façon. Et ça fait beaucoup appel à la mémoire, à la transmission aussi, parce qu'il évoque pas mal son père, il voyage avec son fils. Dans l'Amazonie, il constate lui aussi que cette Amazonie est maltraitée. Voilà, donc... c'est le Patrick Deville que l'on connaît, mais avec une très belle sensibilité. Je sais pas, pour moi, c'est vraiment un grand Patrick Deville.
Et puis, il part avec son fils.
Et il part avec son fils.
Une grande beauté. C'est travailler sur la transmission et la mémoire.
Jacques Ferrandez.
Jacques Ferrandez, donc, illustrateur bien connu, qui adapte. Alors là, on ouvre l'année Giono qui va commencer. Et donc il a adapté en bande dessinée Le Champ du Monde de Giono, dont il y aura une exposition à la médiathèque d'Herbès, d'une part, et d'autre part, il nous fera une rencontre, projection en salle de théâtre. Ce qui est amusant, c'est que nous avons, alors je vais le dire maintenant parce que ça fait notre petite couverture Giono, nous recevrons également Emmanuel Lambert, qui est d'une part écrivaine. Mais surtout qui est la commissaire de l'exposition Giono qui démarrera fin octobre au Mucem. Et en travaillant sur cette exposition, elle a donc relu absolument toute l'œuvre bien sûr, de jouer. Et elle a eu envie, donc à force de réfléchir, de ressentir cette lecture différemment selon les livres, de faire connaissance bien plus profondément avec l'homme. Elle a eu envie d'écrire un texte sur sa lecture très personnelle de l'œuvre de Giono, sans complaisance, je crois. Et elle sera en dialogue avec une plasticienne et écrivain aussi, Clémentine Mélois, à qui elle a demandé de faire une installation dans cette exposition. Donc en fait, ce sera un peu l'invité d'Emmanuel Lambert, sera Clémentine Mélois, et elles dialogueront toutes les deux sur. Ce sera une conversation très personnelle sur l'œuvre, la création de Giono et comment on peut créer à partir des œuvres de Giono. Bien sûr, tout ça sous la houlette de Jacques Méni, qui n'est pas là, mais je le cite. Et d'autre part, ce qui est amusant aussi et qui tombe bien, c'est que donc Emmanuel Lambert, pour l'exposition au Mucem, a demandé à une dizaine d'écrivains d'écrire un texte sur 10 œuvres différentes de Giono. Et il se fait que Sylvain Prudhomme a écrit dans ce catalogue un texte sur le chant du monde. Et donc voilà, ça fera la boucle aussi avec Jacques Ferrandez qui a donc adapté le chant du monde. Donc voilà, on a un petit focus Giono aussi dans ce festival. Ce qui vous a annoncé d'ailleurs la venue de Sylvain Prudhomme.
Bien joué.
Voilà.
Allez, on accélère un peu. Philippe Forest, qui est un magnifique styliste. Ça faisait un petit moment qu'il était venu. Vous savez qu'une bonne partie de son œuvre est construite sur une tragédie initiale, la perte d'un enfant. Il y revient toujours d'une certaine façon, là, de façon tout à fait détournée, en mettant en scène Churchill, un peintre.
Et le peintre qui a peint ce fameux portrait de Churchill. Je ne sais pas si vous avez vu Les années sombres. Ça s'appelait comme ça, le film qui retrace un peu un biopic sur Churchill qui est sorti il y a 2 ans, où on voit bien, où il y a vraiment une scène importante sur Churchill se faisant tirer le portrait, enfin peindre, portraitiser par un homme qui s'appelait Graham Sutherland. Et en fait, il met en scène cette conversation imaginée entre le peintre et Winston Churchill. Et c'est comme si on était le spectateur d'une pièce de théâtre, parce qu'en fond et en égo sont présentes les tragédies de Shakespeare. C'est magnifique.
Ouais. Tu nous parles un petit peu de Mathilde Forget.
Mon coup de cœur dans les premiers romans. Et donc c'est une jeune femme qui sort du master de création littéraire de Paris 8 et qui écrit un livre qui s'appelle « À la demande d'un tiers ». Et cette demande, c'est comment une adolescente doit faire interner sa mère parce qu'elle est folle. Et qu'est-ce qui se passe quand on est obligé de faire interner sa mère. Donc, c'est le début du livre et à partir de là, revient ses souvenirs de cette mère qui s'est suicidée. Et c'est le dialogue entre les deux sœurs sur la folie et comment on survit à cette folie. Comment est-ce qu'on redevient un peu réatterrir dans une vie noire. C'est plein d'humour. La force qu'elle a sur un sujet qui a déjà été écrit, c'est qu'elle est en distance complètement avec ses personnages, ce qui lui permet de faire un peu d'humour et d'être. Pas que ça ressemble, mais elle est dans ce master de création littéraire qui a été initié par Lionel Ruffel et Olivier Rosenthal. Et il y a un petit. Ça rappelle un petit peu les romans d'Olivier Rosenthal. Et nous la faisons dialoguer avec une personne qui sort aussi du master de création littéraire, mais dont c'est aussi le premier roman, Anne Poli, et qui, elle, raconte un deuil, qui raconte la mort de son père. Là, on est, je pense, assez proche de l'autofiction et d'une histoire vraiment qu'on est dans l'autobiographie. Mais alors, le père, c'est un sacré coco parce qu'il est déglingo, il est unijambiste. Il est unijambiste, assez monstrueux et alcoolique. Et donc, elle raconte, avec là aussi, il y a beaucoup d'humour dans ce livre, elle raconte ses souvenirs et la filiation, enfin le rapport qu'elle a avec son père, et puis comment elle va devoir organiser dans ce Capharnaüm les obsèques de son père et vider la maison de son père. Et là aussi, c'est vraiment très. C'est pas sombre, c'est l'histoire d'un deuil, mais on rit vraiment beaucoup. À la lecture. Donc ces deux livres se complètent assez bien sur des histoires tristes.
Et tu peux continuer en disant un mot de Valentine Gobi.
Alors, oui, là, c'est totalement un autre sujet. Première fois que Valentine Gobi vient à Manosque, je sais qu'elle a un bon réseau de lecteurs et de lectrices. Je vois le sourire d'Isabelle. Alors, elle aime bien traiter de sujets toujours assez forts et sur la différence ou sur les grandes tragédies de l'histoire. Et en fait, un jour, elle regarde les Jeux paralympiques à la télévision et elle voit un homme qui n'a pas de, qui a plus de bras. Et en fait, elle va raconter, alors évidemment c'est une fiction, mais elle part de cette histoire-là, et elle raconte l'histoire d'un très bel homme, très bel athlète, qui va être entièrement calciné lors d'une électrocution. Comment il va s'en sortir, le dépassement de soi, parce que finalement il va devenir véritablement un athlète, et il va participer aux Jeux paralympiques de Tokyo en 1964. Et c'est ce que je peux dire, poignant.
Oh, le mot est un peu usé, mais t'as le droit de s'en servir. Ah oui, pardon.
Les bras m'entendent. C'est un très très beau roman sur la différence et sur le dépassement de soi.
Claudie Utzinger, qui a écrit Les Grands Cerfs, et évidemment, on n'a pas été chercher très très loin lorsqu'on s'est dit qu'on allait la faire dialoguer avec Luc Lang, dont le roman met en scène une chasse au cerf et une poursuite d'un cerf, et ils vont se poursuivre l'un et l'autre, et non pas se chasser, mais enfin dialoguer. Allez, je dis ça pour qu'on aille un peu plus vite. Victor Gestin, alors ça, c'est mon premier roman préféré, hein, voilà, mais c'est aussi parce que j'ai pas lu Mathilde Forget, donc. On a raison tous les deux. Il est très jeune, c'est pas un argument, mais enfin, quand même, je le signale, il a 23 ans, je crois, il est étonnant de maturité d'écriture. Le démarrage est très atmosphérique, c'est un peu à l'étranger de Camus, enfin, toute proportion gardée, je ne veux pas non plus lui couper les ailes comme ça, mais on est dans la chaleur, c'est le titre du livre, on est dans une scène dont on ne sait pas si elle est réelle ou fantasmée ou redoutée, on touche à l'absurde et au non-sens. En gros, et je ne raconterai pas le reste du livre, dans un camping surchauffé au bord de la mer, un ado qui ne se sent pas du tout lié à la liesse obligatoire que suppose ce camping est un peu à l'écart, et à l'écart il va assister à une drôle de scène. C'est un autre ado qui joue sur une balançoire et qui joue à commencer à s'étrangler en tournant comme ça, un jeu un peu bête. Surtout qu'au bout d'un moment, il va tellement loin qu'il n'arrive plus à revenir, et il va finir par réellement s'étrangler. Et non seulement l'ado narrateur ne va pas intervenir pour le délivrer, mais constatant qu'il se tue, l'autre, accidentellement ou volontairement, mais moi je pense plutôt pour l'accident idiot, et ben il va prendre le corps et aller l'enterrer dans le sable comme s'il était le meurtrier, alors qu'il est absolument pour rien, si ce n'est qu'il n'a pas bougé. Et puis voilà, on peut imaginer ce qui va se passer dans les 24 à 48 heures qui vont suivre dans ce camping surchauffé, avec des gens qui continuent à faire la fête, une disparition qui n'est pas spécialement inquiétante pendant 1 heure, 2 heures, 6 heures et même 8 heures, et qui commence à devenir étouffante, surtout pour le lecteur, au bout de 24 heures. C'est hyper maîtrisé, pas au sens de fabriquer, mais fort, ressemblant à rien d'autre, et écrit de façon magnifique, avec une part d'étrangeté aussi qui nous a conduit à proposer un dialogue avec Monica Sabolo, qui elle écrit, je ne vais pas en dire trop, mais un peu dans la veine de Laura Kosciuszko, avec justement des scènes dont on ne sait pas exactement si c'est réel ou fantasmé ou redouté. Ça se passe dans une ville américaine en bordure d'une immense forêt. Il y a la suspicion de bêtes qui viendraient attaquer, des jeunes filles qui disparaissent, enfin voilà. Bon. Ils auront sans doute des choses à se dire, même si Monica Sabolo est une auteure assez écapée, elle a beaucoup de livres à son actif, et Victor Gestin un tout jeune, mais ça nous intéressait de les mettre en occasion de dialoguer. On a parlé de La Bruffe, on a parlé d'Emmanuel Lambert, on a parlé de Luc Lang très rapidement. Alban Lefranc.
Alors Alban Lefranc, qui avait failli venir il y a quelques années, au moins il avait été malade, ce qui l'a empêché de venir. Et donc là, il revient avec un, enfin, il revient sur la scène littéraire avec un vrai roman très romanesque où le narrateur essaye de. C'est une véritable farce. Où le narrateur a déposé un projet dans admettons que ce soit un centre national du livre imaginaire, et où il souhaite réunir absolument toutes ses obsessions, c'est-à-dire être Alain Delon, être Thomas Münzer, qui était un révolutionnaire suisse. Il est amoureux fou d'une actrice de porno californien, et il parle de sa mère. Et c'est vraiment, c'est totalement délirant, totalement barré. Et voilà, c'est très en même temps, c'est quelqu'un de très cultivé, très lettré. Donc tous les faits historiques sont, enfin surtout concernant Thomas Münzer qui a été brûlé au 16e. Et il va en faire une lecture, parce que je pense que c'est un livre, bien sûr, à lire, mais je pense qu'à l'entendre, ce sera, ça vous, ben voilà, là encore, on est dans une très très belle langue, un très très beau style, très incisif, très caustique, et qui à l'écoute, je crois que là encore, ça nous fera rire. Enfin, moi, j'ai beaucoup rire en lui.
Très bien. Alors, Longine,
Longy et Christine Montalbetti.
Oui, tu as quelque chose à en dire.
C'est assez peu. Alors, c'est les deux livres, c'est le récit de famille. C'est-à-dire que Christine Montalbetti fait une enquête, elle entend parler, enfin, attends, elle a entend parler de. Non, Christine Montalbetti, pardon, je rembobine. C'est deux livres sur récit de famille et secret de famille, assez autobiographiques. L'une partant à la recherche d'un arrière-arrière-grand-père dont on citait le nom dans les déjeuners dominicaux et qui s'appelle Poisson, d'où le titre L'ancêtre Poisson. Et Laure Limongi, elle, va faire une enquête sur un secret de famille dans une famille corse très traditionnelle. Et voilà, donc récit de famille, secret de famille, pour l'une et pour l'autre.
Oui. Alors, où en sommes-nous ? Parce que j'ai rien à dire. Victor Yamas. Ben, c'est encore une histoire de folie, mais là, sur un prisme plus historique. Enfin. Alors, le problème, on n'a pas lu tous les livres chacun. Il y a d'autres membres de l'équipe qui ont lu. Là, en l'occurrence, c'est Arnaud Catherine qui l'a lu. Donc, je ne peux pas vous en dire plus que ce que le titre, quand même, induit. C'est l'histoire du traitement de la folie dans une période qui n'est plus la nôtre. Voilà. Je ne vais pas rester beaucoup.
Avec quelqu'un ?
Avec Denis Michelis.
Ah oui, c'est ça, voilà. Sur l'état d'ivresse.
Ouais.
Vincent
Message. Alors, on a choisi de faire dialoguer avec Mazarine Pajot parce que c'est deux façons de parler vraiment des questions contemporaines. Politique, sociale, sociétale, etc. Vincent Message, son livre, c'est une immense fresque qui ausculte la transformation du capitalisme, rien que ça, puisque son personnage principal travaille dans une grande entreprise qui était jusqu'il y a peu issue du capitalisme familial avec le mode de gestion que ça peut engendrer, le paternalisme, etc. Il n'y a pas que du mauvais, il n'y a pas que du bon non plus, mais qui va se faire racheter par un fonds de pension, donc on va basculer dans le capitalisme financier, ça va induire un mode de gestion tout à fait différent et un management assez violent qui pourrait nous évoquer ce qui s'est produit chez France Télécom, désormais Orange. Entre autres, après il y a en toile de fond des questions de quel sens on donne à nos vies au regard des métiers que l'on, des fonctions que l'on accepte d'exercer ou qu'on a besoin d'exercer. Il y a évidemment un pari traversé dans les questions des migrants, parce qu'on les voit, ils sont là. Voilà, donc il est vraiment de plein pied dans la France 2019. Et Mazarine Pinjot, de la même façon, la narratrice, une jeune femme, fille de quelqu'un de très connu, alors en l'occurrence, c'est pas un homme politique, donc elle a brouillé les pistes quand même. Enfin bon, peu importe. Et d'ailleurs, ce n'est pas censé être elle du tout. Et c'est pas elle. Elle va être violée, mais un viol qui est quelque chose qui peut laisser un soupçon d'ambiguïté. Est-ce que c'est vraiment un viol ou quelque chose d'un peu forcé ? À une époque, on faisait la différence. Si bien que la jeune femme qui a été violée ne veut pas porter plainte, ou en tout cas pas tout de suite, et puis à un moment, elle est obligée de le faire pour se débarrasser de cette histoire. Voilà donc. Deux façons de parler de ce dont les journaux parlent beaucoup et de la société qui est traversée par ces questions-là en ce moment en particulier.
Mais du coup, on peut peut-être parler d'Abel Quintin et Constance Rivière.
Oui. Alors justement, dans cette façon de traiter la France 2019, ou en tout cas dans les années 2010, on va dire, Abel Quintin, c'est un premier roman, ça s'appelle « Sœur ». Et ça étudie à travers une fiction de façon très informée, j'ai l'impression, enfin c'est même une évidence, et très instructive, comment une jeune fille qui a une vie tout à fait ordinaire, dans un lieu ordinaire, peut-être trop ordinaire d'ailleurs, va basculer dans la radicalité totale. Elle va se faire vraiment embrigader par Daesh jusqu'à accepter d'être quelqu'un qui va aller à l'action. Et du coup, Abel Quintin va discuter
avec Constance Rivière, qui elle raconte une histoire là aussi à partir d'une histoire vraie. Ce sont les attentats du Bataclan en novembre 2015. Une jeune femme complètement paumée vit près du Bataclan. Elle est dans sa télé. Elle est vraiment mal dans sa peau, complètement larguée. Et puis arrivent les images. Et puis, le lendemain, elle voit apparaître une femme qui montre une photo d'un jeune homme disparu. Ce jeune homme est mort dans l'attentat du Bataclan. Et elle le connaissait de vue, il fréquentait le même bar. Et elle avait plutôt un petit bunch pour lui, mais jamais exprimé. Un petit bunch, c'est du belge.
D'accord.
Un petit bégain. Le livre n'est pas drôle, là, pour le coup.
Ça se comprend dans la phrase, mais...
Et elle va s'inventer la petite amie de ce jeune homme, à tel point qu'elle va participer à des émissions de télévision, être membre de l'association des victimes, rencontrer les parents, faire croire aux parents qu'elle était la petite amie de ce garçon, jusqu'au moment où la vérité va éclater au grand jour. Et Constance Rivière, là aussi, s'est très informée parce qu'elle a elle-même... Elle s'est occupée d'une association de victimes à ce moment-là. Et c'est deux romans qui se répondent là aussi sur les mots contemporains. Premier roman également.
Alors, de qui n'a-t-on pas parlé encore? Emmanuel Pirère, Chimère. C'est impossible de raconter ce livre, Emmanuel Pirère, pour ceux qui la connaissent. C'est une littérature très poétique, très faite de dispositifs, de drôleries. La première fois qu'elle est venue ici, c'était comment faire disparaître la Terre, avec évidemment ce double sens, c'est simplement quelqu'un qui creusait un trou, ça faisait un tas à côté, comment faire disparaître la Terre. Enfin, voilà. Et donc elle est tout le temps comme ça, et donc là elle prépare une performance, probablement avec de la vidéo, pour nous faire entrer dans sa poésie très singulière.
Moi, j'aimerais bien, dans les auteurs de littérature étrangère, traduits donc dans ce bon Jonathan Coe, et également une Canadienne qui s'appelle Myriam Teuse, qui a écrit une histoire absolue. Alors, là aussi, à partir d'une histoire vraie, de François Bourg, c'est absolument incroyable ce livre. Il s'appelle « Ce qu'elles disent », et ça se situe dans une communauté mennonite, qui est un mouvement chrétien évangélique, du nom de son fondateur, un Néerlandais qui s'appelait Menno Simons. Donc c'est des communautés qui n'ont évidemment aucun rapport, aucun lien avec le monde extérieur. Et là, ce sont des femmes donc, qui vivent, c'est une communauté mennonite mais qui se situe en Bolivie. Ce sont des femmes qui sont plutôt analphabètes puisqu'elles sont vraiment coupées du monde extérieur, on ne leur apprend absolument rien. Et un certain matin, plusieurs matins, elles se lèvent et elles sont pleines de blessures, de sang, d'hématomes, et le silence règne. Et petit à petit, elles vont apprendre à parler et à dire ce qui se passe. Et en fait, elles sont droguées pendant la nuit par un somnifère vétérinaire. Elles sont complètement assommées et elles ne se souviennent de rien. Et elles sont battues, violées. Et petit à petit, elles vont se réunir et on va les aider à parler, à exprimer ce... À la fois, c'est aussi une découverte de cette communauté mennonite où il se passe des horreurs, d'une part, et d'autre part, c'est la naissance du langage pour dire et exprimer sa vie, ses sentiments. Et c'est absolument magnifique. Vraiment, ça va être... Enfin, voilà, c'est un livre dont on ne sort pas indemne.
Mais je crois qu'on a dit un mot sur presque tout le monde. Blandine Rinkel, bon, bah, elle est souvent là. Et, par ailleurs, moi, je n'ai pas lu le livre encore.
Moi non plus, on ne l'a pas lu.
Donc, je ne peux pas vous en dire grand-chose.
Elle dialoguera avec Sylvain Boudot.
Oui. Voilà. Et puis Sylvain Tesson, voilà. Que nous avions envie d'inviter depuis longtemps, que vous connaissez sans doute, écrivain, voyageur, grand lecteur, grand érudit, voilà, donc si tout va bien, nous devrions ouvrir le festival avec lui. Ah oui, 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 pardon, à toi.
C'est un livre un petit peu différent de ses autres livres. Elle est plus sérieuse, je veux dire, enfin, même si elle a toujours entrepris un livre sur des sujets sérieux, mais là, c'est une dystopie. C'est-à-dire, on est dans un monde où la politique urbanistique est totalitaire. Des tours se construisent, les gens ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent. Et un groupe de résistants se réunissent. Et ils sont neuf. Et elle choisit de raconter cinq histoires durant cinq nuits. Elle-même, un personnage de femme, Lily, a un don. Elle peut de télépathie, c'est-à-dire qu'elle rentre dans la vie des gens, dans les âmes des autres. Donc à la fois, elle va être observatrice et elle va écouter ce que chacun va raconter de son histoire durant ces cinq nuits, cinq personnages, cinq histoires, cinq nuits. Et elle observe, donc elle va être obligée aussi de raconter son histoire. Et ce qui les lie, c'est d'être indocile à cette politique totalitaire. Et d'autre part, ce qui donne constitue le titre, éloge des bâtards, c'est-à-dire que ces cinq personnes ont dans leur vie et dans leur enfance des gros bugs, soit ils ne sont pas, soit ils sont adoptés, soit ils ont été battus, soit ils ne sont pas les enfants de leurs parents et ont leur âge très tard. Ça va être le point commun. Donc c'est à la fois un livre politique, à la fois un livre sur l'identité, et ne nous trompons pas sur ce qu'est véritablement une identité. Voilà. Donc finalement, ces histoires sont extrêmement touchantes parce qu'elles ne disent que les blessures, mais c'est aussi ces blessures qui en font des grands résistants.
Voilà pour le moment. Il y a déjà un menu copieux de lecture de livres déjà sortis ou de certains que nous allons recevoir.
Ouais.
C'est très ouvert, c'est très divers. Voilà. Faites votre chemin là-dedans.
Ouais, les livres vont commencer à arriver d'ici une petite semaine. Voilà, ils sont disponibles au bureau. En revanche, je vous parle de la billetterie.
Oui, alors sachez juste une information pratique, nous allons ouvrir la billetterie sur Internet à peu près aux mêmes dates qu'à l'accoutumée.
19 août.
Voilà. Je cherchais Clémence, mais en fait, par un tour de magie, elle a été remplacée. 19 août. Par contre, la billetterie physique, celle qui est à Manosque, n'ouvrira que le 6 septembre. Ce n'est pas de notre faute, hein, c'est le service culturel qui, pour cause de vacances, ne peut pas rouvrir avant.
On aura quand même des places.
Alors on veillera à garder quand même un quota pour le service culturel, mais que tous ceux qui peuvent réserver sur Internet le fassent, vous serez plus tranquille, voilà, tout simplement. Mais ce n'est pas de notre faute.
Et les abonnements?
Alors les abonnements ne peuvent s'obtenir que via l'office de tourisme.
Donc à partir du...
Parce qu'il n'y a pas de système.
Oui, non, mais on va garder vraiment un quota important de place, choisi d'avance. Mais essayez le plus possible d'acheter les billets en ligne.
Ah, Clément, c'est une précision à faire.
Un petit bémol, c'est pas l'office de tourisme, c'est l'accueil billetterie du service culturel.
Ah, j'ai dit office de tourisme.
Bah, oui, là, l'instant de...
Ah, monsieur Hélène, oui, mais moi j'ai dit service culturel.
J'ai raté, mais c'est un peu pour éviter la
possibilité. Par contre, si tu fais l'abonnement sur Internet, tu peux pas faire.
On peut pas faire, il n'y a pas de façon de procéder. Enfin, on a cherché, il n'y a pas ce qu'il faut. Voilà. Donc c'est une contrainte qui n'est pas de notre fait.
Mais il y aura un certain nombre d'abonnements à disposition à partir du 6 septembre au bureau du service culturel sur la place de l'Hôtel de Dieu.
Bah, programme arrive à la mi-août, vers le 14 août, je crois. Et il sera en ligne avant, évidemment.
Ouais. Les auteurs que vous faites rencontrer, est-ce que ça peut être ceux des apéros littéraires, éventuellement?
Alors, on n'a pas encore fait les choix des apéros. Parce qu'on n'a pas toutes les informations de qui arrive quand, qui repart quand, est-ce qu'il est disponible, etc. On est en train d'élaborer plus finement la grille, dont le choix des auteurs apéros.
Il y aura René Frémil vendredi matin, l'apéro du Canada. Et le labo de l'édition le jeudi à l'heure de l'apéro littéraire.
Voilà pour l'essentiel. Eh bien, merci.
Merci.